Recevons en studio ce matin Marie-Pierre Lavoie, présidente du conseil d'administration du Conseil scolaire francophone de Colombie-Britannique. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Marie-Pierre Lavoie, si vous êtes ici avec nous ce matin, c'est pour nous expliquer une actualité. Des modifications ont été apportées au School Act afin de permettre d'exproprier des terrains privés, comme les 59 autres conseils scolaires de la province. Alors, je rappelle, avant de revenir donc sur cette actualité, ce que c'est le School Act. C'est une loi donc provinciale, principalement en Colombie-Britannique, qui régit ni plus ni moins le système d'éducation primaire et secondaire. Donc, il définit les droits, les rôles et les responsabilités des parents, des élèves et de l'ensemble du système éducatif, y compris la gestion des écoles et la prestation de programmes d'enseignement. Alors, Marie-Pierre Lavoie, concrètement, qu'est-ce que ce pouvoir d'expropriation signifie pour le CSF et quel pouvoir ça lui confère?
Alors, vous l'avez dit, c'est un outil qui va nous permettre, en dernier recours, et c'est bien important de le mentionner, de pouvoir exproprier des propriétaires privés. Donc, on ne parle pas de terrain public, on ne parle pas de terrain ou de sites d'autres conseils scolaires, mais bien des sites privés pour les biens de l'éducation, pour pouvoir construire une école, par exemple. Alors, ce pouvoir-là était accordé aux 59 autres conseils scolaires de la province, mais nous, on ne l'avait pas au CSF. Alors, le tribunal a jugé que c'était quelque chose qui nous nuisait comme conseil scolaire et donc a ordonné à la province de mettre en place ce pouvoir-là pour que nous ayons qu'on soit sur un pied d'égalité avec les 59 autres conseils scolaires.
Oui, alors, et puis vous l'avez bien précisé, effectivement, cette expropriation devra se faire en dernier recours et puis avec l'approbation ministérielle, ça c'est important aussi. Donc, jusqu'à présent, c'est vrai, c'était quand même une injustice que le CSF soit le seul conseil scolaire qui n'ait pas ce pouvoir d'expropriation. Comment on l'explique, ça?
Ah ben, il faut poser la question à la province, à savoir pourquoi on n'avait pas ce pouvoir-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la loi scolaire, le conseil scolaire a une partie bien à lui. Et certains articles de la loi scolaire, je vais dire plus généraux, s'appliquent aussi au conseil scolaire francophone, mais des articles qui sont prévus dans la section du conseil scolaire francophone ne s'appliquent pas au conseil scolaire anglophone. Donc, nous, on nous avait dit dans notre partie, non, vous n'avez pas ce droit-là. Donc, pourquoi? C'est à voir, mais maintenant, on est bien content de pouvoir avoir ce nouvel outil dans notre boîte à outils, qui n'est pas une baguette magique non plus. Là, c'est vraiment, comme on l'a dit, dernier recours avec l'approbation du ministère, après avoir épuisé tous les autres outils, la recherche de terrain, les négociations, les ententes, les pourparlers avec le ministère, les pourparlers avec les propriétaires fonciers privés, vraiment dernier recours. Et on ne s'en est pas servi souvent dans la province. Les conseils scolaires anglophones ne s'en sont pas servis souvent par le passé. On verra bien comment ça va se passer pour nous.
Oui, alors c'est vrai que ça permettra quand même de contrer la pression foncière. Et l'idée derrière tout ceci, c'est d'offrir bien des milieux d'apprentissage équitables et durables pour les élèves francophones partout dans la province. Est-ce que ça manque encore trop? Est-ce que la demande de la communauté francophone, elle est bien là?
Oui, elle est effectivement bien là encore. On a parlé d'ailleurs en rencontre publique la semaine passée où Creston et Castlegar nous ont fait des demandes d'ouverture de programme. Donc, on a ces décisions-là à prendre dans un avenir très proche. Et donc, oui, la demande est encore là. Il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas d'école. On le voit et on voit avec les données du recensement qu'on devrait avoir des écoles dans ces endroits-là. Je pense dans le Nord, entre autres, où il n'y a pas assez d'écoles, je pense, où il n'y a pas d'écoles secondaires non plus. On a des programmes primaires à certains endroits, mais on n'a pas de programmes secondaires. Donc, la demande est encore là. Et donc, on travaille d'arrache-pied pour pouvoir offrir cette éducation et réellement équivalente à laquelle on a droit, à laquelle ces enfants-là ont droit. Chaque année qu'on n'ouvre pas un programme, c'est une génération quasiment perdue. Qui ne pourra pas étudier en français, mais aussi ça veut dire que les enfants de ces enfants-là ne pourront pas non plus. Donc, il faut vraiment qu'on pense à l'avenir. Il faut qu'on mette les bases pour que tous les enfants de la province qui ont droit à l'éducation francophone puissent suivre des cours en français.
Alors, récemment, le CSF a fait l'acquisition de nouveaux terrains. Je pense à Abbotsford, un autre à Royal Bay, Colwood, dans le Grand Victoria, pour répondre justement à ces besoins, besoins de la communauté francophone et construire de nouvelles écoles. Pourtant, cela ne suffit pas. Parfois, avant que l'école ne sorte de terre, eh bien, c'est très long. Je pense même à l'école Beau Soleil, dont la construction n'est pas terminée, bien qu'elle accueille déjà un des élèves depuis quelques années maintenant. Donc, faciliter l'acquisition de nouveaux terrains, on comprend que cela va réellement dans le bon sens, mais que faut-il encore pour que la demande de cette communauté francophone, eh bien, elle soit vraiment satisfaite?
Bien, il faut qu'on travaille encore davantage avec le ministère. Donc, vous parlez de l'école Beau-Soleil. Avec l'école Beau-Soleil, en ce moment, c'est au ministère qu'on attend. On attend d'avoir les fonds pour pouvoir construire. Le terrain nous appartient à Lansdowne. Le terrain nous appartient à Colwood aussi, vous en avez parlé. Et donc là, on attend que le ministère nous dise, oui, vous pouvez commencer à construire. Bien sûr qu'entre-temps, on a du travail sur notre planche aussi. Et que l'on fait pour ne pas retarder les choses, pour qu'une fois que le ministère nous dise, bien, oui, on vous accorde les fonds, qu'on est prêt à commencer. Donc, comment accélérer les choses auprès du ministère? Bon, bien là, vous le savez, les fonctionnaires sont en grève. Là, on a entendu qu'il y avait une entente de principe. Oui. Là. Donc, on s'attend, mais les choses sont en ce moment, malheureusement, sont au ralenti à cause de ça. Et toujours aussi, bien sûr, que la question monétaire, quand on approche le ministère pour construire des choses, prend du temps. Le ministère a aussi été scindé en deux à peu près, parce que toutes les infrastructures maintenant sont rendues dans un ministère séparé. Ce n'est plus le ministère de l'Éducation. On a bien sûr des liens entre les deux, mais on doit maintenant approcher deux ministères quand on a des projets de construction. Donc, est-ce que ça ralentit les choses? Je ne sais pas, ça restera à voir. C'est encore tout nouveau, mais c'est sûr que pour l'instant, on attend.
Et alors, cette loi, ce pouvoir d'expropriation, est-ce que c'est immédiat? Enfin, je veux dire, est-ce que vous allez pouvoir potentiellement l'utiliser dès à présent ou ça va prendre encore un petit peu de temps?
Bien, je ne sais pas exactement où le gouvernement en est avec les lectures, par exemple. Il doit y avoir la première lecture, la deuxième lecture, l'étude en comité, troisième lecture, sanction royale et tout ça. Ensuite de ça, il doit y avoir des règlements aussi qui doivent accompagner ça. Donc,
c'est toujours
très long, bien sûr. On l'a vu, par exemple, avec le projet de modernisation de la loi. On le voit encore avec le projet de modernisation de la loi au fédéral. Le projet est là, mais on n'a pas les règlements encore. Donc, comment est-ce qu'on met ça en œuvre? Quand on a changé la loi scolaire aussi récemment, on attendait pour avoir le bureau de projet, par exemple. Donc, il faut attendre d'avoir les règlements pour que tout soit mis en œuvre. Quand ça va se faire, ça, on ne le sait pas.
Oui, c'est ça. Ben, à voir, en tout cas, ça reste quand même une bonne nouvelle. Et puis, une fois qu'on a les murs, en tout cas les terrains, eh bien, il faut le personnel aussi. Et là, le CSF en est tout. Est-ce que vous avez le personnel qu'il faut? Est-ce que c'est compliqué de le faire venir parfois dans certains endroits?
Oui, dans certains endroits, c'est difficile. Mais maintenant, je dirais que c'est partout où c'est difficile. Le coût de la vie est tellement élevé en Colombie-Britannique que oui, on a de la difficulté. Par contre, on est chanceux, je pense. On a un excellent système. On a des bonnes conditions de travail aussi. Et puis, le personnel veut, les gens veulent venir en Colombie-Britannique. Donc, on a cet attrait-là.
Et la bonne presse, hein, cette province.
Oui, effectivement. Maintenant, c'est comment les garder, bien sûr. Là, on a parlé du coût de la vie, mais en général, là, on a commencé l'année, puis on avait quasiment... Les écoles avaient tout leur personnel. Là. Mm-hmm. C'était des petits pointages qui restaient. Madame Bernier, notre directrice générale, en fait toujours état aussi à nos rencontres publiques. Donc, c'est minime qu'est-ce qui nous manque. Donc, de ce côté-là, on est chanceux. Et puis, donc, une fois que l'école sera construite, que le programme sera ouvert, que commencera, bien sûr qu'on va faire le recrutement nécessaire et puis on va pourvoir les postes pour que l'année puisse commencer tout en beauté.
Super. Alors, j'avais une dernière petite question, si je peux me permettre. Je vais rebondir sur quelque chose que vous nous avez dit tout à l'heure qui m'a semblé intéressant. Vous disiez, quand il y a une génération donc, qui loupe en quelque sorte le coche, qui ne peut pas accéder à cette éducation en français, eh bien, parfois, c'est la deuxième génération, celle qui suit, qui, elle aussi, va s'éloigner de cette éducation française. Pourquoi?
Pourquoi? Ben, il faut comprendre que les ayants droit, ce sont les parents, ce ne sont pas les enfants. Alors, quand on a un parent ayant droit, peut inscrire ses enfants, faire éduquer ses enfants en français dans la province en milieu minoritaire. Si ses enfants ne vont pas à l'école, il perd une catégorie, parce qu'il y a trois catégories d'ayant droit. Donc, quand cette personne-là aura des enfants plus tard, comme il n'aura pas été éduqué en français, est-ce que sa langue première sera encore le français, comprise et encore parlée, sera encore le français? On le sait pas. On vit dans des familles qui sont exogames. Mm-hmm. On est dans une culture francophone plurielle. Et donc souvent, c'est plus que deux langues qu'on parle à la maison. Ou du moins, au moins deux langues qu'on parle à la maison. Laquelle sera la langue dominante? Surtout si on va pas à l'école en français. Et donc, les enfants qui ne vont pas à l'école en français en ce moment pourraient perdre le droit d'envoyer leurs enfants à l'école en français par la suite. Donc, et c'est quelque chose qui nous attriste déjà, parce qu'on le sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des endroits où il n'y a pas d'école, il y a des endroits où les écoles sont pleines, mais quand les écoles sont pleines, on est quand même tenu, on est tenu aussi, puisqu'on est un conseil scolaire public, d'accepter les enfants quand même. Et donc, c'est surtout où il y a pas d'école, où on n'offre pas les programmes, où les choses sont plus difficiles.
Ben merci beaucoup, Marie-Pierre Lavoie. On restera quand même sur cette note positive, pouvoir d'expropriation qui vient d'être octroyé au CSF. Merci d'être venu en direct dans nos studios ce matin, dans la voix de la communauté. Très belle journée à vous.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Les nouvelles de notre communauté sont rendues possibles grâce au fonds IGL.